Alors nous sommes dans le livre du Rav Harlap Zatzal. Concernant, d'une manière générale, la délivrance, et plus précisément dans notre chiour d'aujourd'hui, le choix, la force du choix qui est restée intacte dans la terre d'Israël. Et nous sommes arrivés la dernière fois à ce que la terre d'Israël n'a pas changé la parole d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu a ordonné Totse Haaretz, Etz, Peri, Ose Peri, que la terre fournisse des arbres fruits qui font des fruits. Autrement dit, que l'arbre lui-même était fruit, et non seulement il était lui-même fruit, il donnait aussi des fruits. Et Rashi explique sur place, Shetam ha'etz ketam ha'peri. Le goût de l'arbre était comme le goût du fruit. Nous avons expliqué qu'il s'agissait en fait d'une correspondance entre la source et le résultat. La source, c'est l'arbre, et le fruit, c'est le résultat de l'arbre. Lorsque dans la vie, on arrive à coller une chose avec sa source, c'est-à-dire la source et le résultat, sans qu'il y ait de différence entre les deux, eh bien c'est un gain, un degré extraordinaire, parce qu'il est très difficile d'arriver au bout de quelque chose, au bout d'une idée, en gardant l'idée initiale, sans perdre la qualité de ce que j'avais au départ. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut faire quelque chose dans la vie, quand il arrive à la chose elle-même, elle est souvent très loin de l'idée qu'il avait au départ. Pourquoi ? Parce qu'il a une perte en chemin, il a oublié l'intensité, la valeur, l'essence même de la chose, et au fur et à mesure du chemin, ce degré-là se perd. Automatiquement, lorsqu'il arrive à la fin de son action, c'est rarement ressemblant à ce qui se trouvait au départ, à ce qu'il avait dans l'idée première. Chez Akadosh Baruch Hu, bien entendu, ce n'est pas comme ça. Son idée se réalise directement. Sauf si Akadosh Baruch Hu lui-même décide que ce cheminement passe par l'intervention de l'homme. Et là, l'intervention de l'homme peut gâcher les choses. C'est-à-dire que quand Akadosh Baruch Hu dévoile quelque chose, si ça passe par l'intermédiaire de l'homme, bien selon la conduite de l'homme, cette chose-là peut arriver réellement à se dévoiler telle que Dieu l'avait pensé, ou bien si l'homme choisit d'étouffer cette chose-là, ou de la transformer, eh bien cette chose va arriver d'une manière pas tout à fait ressemblante à ce qu'elle l'était au départ. Et donc en Eretz Israël, nous dit le Rav, la terre a respecté en fait ce degré-là, et le goût est resté tel qu'il était au départ. C'est-à-dire que la terre d'Israël, dit le Rav, « Mitzad atzma hi etz ha'chaim shebetoch hagan ». Nous sommes dans le deuxième paragraphe, dans le deux tiers dernier. Shebetoch hagan. Ela shelahat acherev amithapechet mastiret niflaot misgava shel Eretz Israël. Nous avons expliqué que à l'entrée du jardin d'Éden se trouve la fameuse épée qui tourne et qui fait en sorte d'empêcher le retour de l'humanité, donc de Adam Harishon, à revenir vers le jardin d'Éden sans qu'il ait auparavant corrigé la faute. Ça veut dire que notre accès au Gan Eden sera possible lorsque la faute du premier homme aura été corrigée, aura été réparée. Or, le Rav nous dit que Eretz Israël, c'est le jardin d'Éden. C'est l'arbre de la vie. Donc, moralité, si on revient à l'arbre de la vie en Eretz Israël, ça veut dire que notre retour en Eretz Israël n'est pas seulement un retour du peuple juif sur sa terre, mais c'est une réparation de la faute du premier homme. Donc, nous sommes très proches de la fin des temps. Parce que la fin des temps, c'est la correction totale de la faute du premier homme. Donc, si on revient en Eretz Israël, sous-entendu, on revient au Gan Eden, on revient à la consommation de l'arbre de la vie, ça veut dire que nous sommes très proches du tikkun, de la réparation finale qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu. Velezen itkaven Moshe. Maintenant, le Rav nous enseigne que c'est ce que voulait Moshe Rabbeinu dire aux explorateurs. Be'et sheshalach et ameraglim ve'amar lahem. Lorsqu'il a envoyé les explorateurs et qu'il leur disait, Ur'item et ha'aretz ma'hi. Vous allez voir la terre ma'hi. Qu'est-ce que ça veut dire ma'hi? Qu'en est-elle? Qu'est-ce que c'est que cette terre? Qu'est-ce que c'est que cette question? Uma ha'aretz hayesh ba'etz im ein. Est-ce qu'il y a sur cette terre un arbre ou bien il n'y en a pas? Question simple, vous connaissez une terre, vous, sur la planète Terre qui n'a pas d'arbre? Ça n'existe pas. Il y a toujours un arbre, un arbuste, il y a quelque chose. Ce n'est pas une terre, ce n'est pas un pays. Ça peut être un désert, mais Israël n'est pas un désert. C'est quoi cette question de Moshe Rabbeinu? C'est une question qui n'est pas logique dans le premier sens de la lecture du texte. Donc nous sommes obligés de comprendre la question de Moshe à un autre degré de lecture, pas au premier degré. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu voulait leur demander, Klomar, Sheiru im kvar nitgala be'eretz Israël bechinat etz ha'chaim. Moshe leur dit, à ses explorateurs, est-ce que l'arbre de vie est revenu, a été dévoilé sur la terre d'Israël? Regardez si vous allez le voir quand vous allez rentrer. Je veux savoir, moi, Moshe, qui suis à l'extérieur de cette terre, si l'arbre de la vie se trouve à l'intérieur. Autrement dit, si nous avons fini le tikkun, si nous sommes à la fin des temps, donnez-moi une information, c'est une information très importante. Ou basée. Et en cela, Gila lahem k'dushata shel Eretz Israël, Moshe, par cela, par ce degré-là, par cette question-là, précise, nous dévoile à nous, les lecteurs de la Torah, et les explorateurs eux-mêmes, la qualité supérieure d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que dans sa nature, il n'y a même pas besoin d'avoir un arbre. Pourquoi? Tout entière, elle est cet arbre de vie. Ce n'est pas qu'elle a... C'est une terre qui contient en elle un arbre. Non. C'est la terre qui est devenue arbre. Ça veut dire que la terre tout entière est consommable. On peut manger des fruits de la terre, pas des fruits de l'arbre qui pousse sur cette terre. Ki im kale birkat Hashem. Kula poria. Kula birkat Hashem. Kula poria. Umevoracha vetam etza vepiria shave. Autrement dit, Moshe Rabbeinu leur dit clairement, Vitrazaktem, soyez forts. Pourquoi soyez forts? Klomar im titrazkul et taken chet et sadat. Renforcez-vous pour faire la correction de la faute du premier homme. Il faut se renforcer pour faire ce tikkun-là. Et si vous arrivez à monter à ce niveau-là, ou le kartem mi peri haaretz, prenez alors. Écoutez bien la traduction, mi peri haaretz, du fruit de la terre, pas de l'arbre qui pousse dans la terre. Ça veut dire que la terre elle-même donne normalement des fruits en Eretz Israël. Il n'y a pas besoin d'arbres. C'est les fruits de la terre. Tnuvat haaretz. Kol shetikru misham yeh me'apri velo me'aretz. Donc vous allez prendre les fruits et pas l'arbre. Parce que c'est la même chose en Eretz Israël. Le fruit est l'arbre, c'est-à-dire le fruit est la terre elle-même. Nous avons traduit le dernier cours, arbre, pas comme arbre, mais comme idée. Etz vient du mot etza. Etza, en araméen, itin, qui en réalité se traduit par les mitzvot. Les mitzvot, c'est etzot. Ce sont des conseils, des idées divines qui sont données à l'homme, mais qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu pour que l'homme accède à un niveau supérieur dans sa vie. Ça veut dire que l'application des mitzvot, c'est l'application des idées divines. Ken? Etza. Et ça, c'est ce qu'on traduit dans un hébreu simple, au niveau du premier degré de la lecture, etz, l'arbre. Donc en réalité, il ne s'agit pas de l'arbre de la vie, mais de l'idée de la vie que tu dois manger. Ou de ce fruit de l'arbre de la vie ou de la vie elle-même. Veitraskut anidreshet atahi mipnei sheayamim yemei bikurei anavim. Or, quand est-ce que les explorateurs font ce voyage, ce fameux voyage d'exploration de la terre, quand est-ce que ça se passe? À quelle période de l'année? Ils reviennent à Tisha B'Av. D'accord? Donc ça veut dire que pendant que je suis en train de vous parler maintenant, les explorateurs sont en train de tourner. Pas revenir, revenir c'est que Tisha B'Av. Quand est-ce que les explorateurs sont sortis? Quel jour ils sont sortis? Quelle date dans l'année ils sont sortis pour faire leur exploration? Ma? Non. Non. 29 du mois de Sivan. C'est-à-dire la fin du mois dernier. 29 Sivan. Et ils sont revenus le 8 Av. Et ils ont parlé le mal le 9 Av, c'est-à-dire le 8 au soir. Moralité, ils sont restés 40 jours. Et le 40 au soir, ils ont commencé à parler Ken en mal de la terre d'Israël. Et ces jours-là, pendant lesquels nous sommes maintenant, vous comprenez pourquoi la difficulté dans la période que nous vivons aujourd'hui, à chaque génération nous avions des difficultés à cette période-là, bien ça a commencé quand? Pas seulement avec les Béraglim, même avant. Qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Avant les destructions et le temple et tout ça, ça n'existait pas encore tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé la première fois le 17 Tammuz? Les tables, les premières tables, Moshe les a cassées parce qu'en bas, pendant que Moshe donnait la Torah, Akadosh Baruch Hu donnait la Torah à Moshe, les tables, en bas on faisait le veau d'or. Ça veut dire que depuis la nuit de l'histoire, ce jour-là, cette période-là, est une période où on n'arrivait pas à contenir l'énergie qui s'y trouvait. Parce que, en réalité, hier, avant-hier, c'était le 17 Tammuz. On est d'accord? En réalité, cette journée-là, elle devait être quoi? Le jour de quoi? De la réception de la Torah. Ça veut dire que quelle réception de quelle Torah? Celle qui a été dite au mont Sinaï et qui maintenant a été gravée sur la pierre. Qu'est-ce que vous comprenez par cela? Qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'elle soit dite ou gravée sur la pierre? Il y a une grande différence. Lorsqu'elle est dite en haut, voilà, elle est encore à distance. Mais lorsqu'elle est gravée sur la pierre, ça veut dire que la parole divine est gravée dans notre vie, dans notre existence. C'est ça la pierre. La pierre, ce n'est pas des bouts de pierre. C'est nous-mêmes. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? On n'a pas pu supporter que Dieu descende sur terre. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça s'est cassé. Ça veut dire quand le divin, quand l'infini a tenté une tentative de pénétrer le monde dans lequel nous sommes, ça nous a cassé, on n'a pas pu supporter. Qu'est-ce qu'on a dit à Kadosh Baruch Hu? Non, 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 non. Laisse-nous, nous on préfère fabriquer un petit truc. Nous on va le faire. Au moins c'est à mon niveau. Et comment le peuple dit à Moshe, à Aaron? Asselanu Elohim. Écoutez bien. Fais-nous des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire, fais-nous des dieux? Ça veut dire que qui fait qui? C'est Dieu qui fait l'homme ou c'est l'homme qui fait Dieu? Normalement, c'est Dieu qui fait l'homme. Mais ça, ça ne nous convient plus. On préfère un Dieu fabriqué main. Non, parce qu'il est plus petit, je peux le mettre dans ma poche. Ça s'appelle de la Avoda Azara. Quand ça me convient, je sors mon petit Dieu fabriqué par ma propre main, je l'embrasse, tu peux m'aider, et si le jour où il ne me convient pas, je le jette à la poubelle. Ça s'appelle de la religion. C'est-à-dire, ce jour-là, on est devenu religieux. Bien, mais Vadaï, c'est une petitesse. Et la plupart des gens fautent dans cette faute-là. Parce que qu'est-ce que ça veut dire que je ne veux pas que Dieu rentre se graver dans les pierres de ma vie? Ça veut dire que je préfère rester petit. Donc j'ai peur de grandir. Et au niveau psychologique, c'est un degré bien connu chez les psychologues. C'est que nous fautons tous dans cette faute-là d'avoir peur de grandir dans notre vie. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir peur de grandir? Ben, tout simplement d'avoir peur de te marier, d'avoir peur de devenir papa, d'avoir peur d'ouvrir une société, d'avoir peur d'acheter une maison, d'avoir peur d'investir quelque part. Toutes ces peurs-là, en réalité, ça provient de la même peur première. C'est-à-dire, on préfère, comme on dit en hébreu, « rosh katan », tu te la joues petit, petite tête, petit esprit, pas de responsabilité, je suis tranquille, j'ai pas envie qu'on me prenne la tête, c'est trop difficile de commencer à réfléchir pour 8. Imagine-toi, tu as une femme, 5 enfants, il faut que tu commences à réfléchir pour 7 personnes, pour toi et encore 6. Rien que pour moi déjà, j'arrive pas à tranquille. Eh bien, tout ça, ça s'appelle la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, c'est pas la faute de fabriquer un veau en or. C'est des bêtises, ça. Il ne faut pas tomber dans cette erreur. La Torah ne se lit pas à ce premier niveau. Attention. Faire un veau d'or, c'est tous les jours, chas v'shalom. Chacun de nous peut fabriquer des petits veaux toute sa vie. Faites attention à ça. À chaque fois que tu as peur de grandir, de prendre une décision importante dans ta vie, c'est comme si tu fabriquais un nouveau petit veau d'or. À ta portée, à ton niveau, fabrication humaine. Dieu fabriqué humainement. Ma'ase yede Adam, avodazara, tout simplement. Et donc ces jours-là, pendant que les meraglim venaient en Eretz Israël, ça s'appelait Yeme Bikure Anavim, c'est là où les raisins commencent à sortir leur prémices. Hem, ou que Moshe Amar Bazohar Akadosh, et le Zohar nous enseigne, le Rav nous amène une référence du Zohar, Chelek Gimel, que veut dire ce verset, que les jours étaient les prémices des raisins? Qu'est-ce que ça vient nous enseigner, de quoi ça parle, hayamim, ces jours en question, dit le Zohar? Et là, ve'ayamim, inun de'ishte modean, kullehu havu mitchabran be'ahu zimna be'ahu ilana dechet be'adam harishon. Nous dit le Zohar, qu'est-ce que c'est que c'était les prémices? Eh bien, c'était en réalité les jours où il y avait la possibilité de réparer la faute du premier homme qui était, comme la Gemara nous l'indique, ou une vigne, ou un figuier, vous connaissez, Nachon? Qu'est-ce que c'était, d'après la Gemara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Adam Arishon a consommé? Chita, ou du blé, Gefen et Te'ena. C'est-à-dire, ou du blé, ou du raisin, ou de la figue. Voici les 3 degrés dans lesquels les Chachamim nous ont dit, voilà de quoi était fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, la pomme n'existe pas, c'est une invention, je ne sais pas d'où ça sort. Ken? Alors que ces 3 degrés, bien entendu, il faut les comprendre aussi. Qu'est-ce que c'est que Chita? Le blé? C'était quoi la faute du blé? Qu'est-ce que ça veut dire que c'était... Pourquoi les Chachamim nous ont donné 3 références de 3 arbres? Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de ces 3 arbres physiquement. Il s'agit de l'idée qui est cachée à l'intérieur de ces 3 arbres. Qu'est-ce que c'est la chita? Chita, nous dit le Zohar, c'est en valeur numérique 22. C'est-à-dire que ce sont les 22 lettres de l'alphabet. Autrement dit, lorsque l'homme a mangé, a consommé de cet arbre-là, il a endommagé les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Il a fait un mélange dans le degré le plus intérieur de la vie. Car les lettres sont l'intériorité de la vie. C'est avec les lettres qu'on réfléchit, c'est avec les lettres qu'on parle, c'est avec des lettres qu'on fait tout. Tout est lettre. Vous êtes d'accord ou pas? Vous pensez en forme de lettre. Vous parlez en lettre. Vous écoutez en forme de lettre. Tout est lettre. Donc Adam Arishon a perturbé ce degré. Geffen, c'est quoi? Le raisin. Donc pourquoi les sages nous disent que c'était un raisin? Que veut dire que la faute était d'avoir consommé un raisin? Qu'est-ce que c'est Anavim? Quelle est la qualité du raisin? C'est que du raisin, je peux sortir le vin, le jus de ce raisin, qui devient du vin. C'est-à-dire que le raisin cache en fait un secret. Et lorsque Adam Arishon a perturbé ce degré-là, il a gâché en quelque sorte le secret. À tel point que le Harizal nous dit que la faute du premier homme, c'est qu'il n'a pas étudié la Kabbalah. C'était ça la faute du premier homme, d'avoir eu peur d'étudier la Kabbalah. Voilà la faute du premier homme. Et dit le Harizal, ceux qui ont peur d'étudier cette étude dans leur vie, recommencent et retombent dans la faute du premier homme. Ok? Troisième degré, Téhéna. Qu'est-ce que c'est Téhéna? La figue. Mais qu'est-ce que représente le secret de la figue? Que cache la figue? Téhéna. C'est-à-dire un désir de recevoir. Ten. Le Zohar explique que le premier homme est tombé dans une faute du désir de recevoir pour lui-même. C'est-à-dire, en termes simples, l'égoïsme. Alors que donner à l'autre, c'est Etena, je donnerai, et pas Téhéna. Donc je dois donner, je dois octroyer, je dois faire passer, je dois propager, et ça c'est le tikkun. Quand tu penses seulement dans un seul sens, tu ne penses qu'à recevoir pour toi-même, tu es déjà en train de tomber dans la faute. Donc une autre facette de la faute, l'égoïsme. Vous avez compris? Donc nous avons trois manières de voir la faute du premier homme. Premier degré, c'est d'avoir perturbé en fait toutes les lettres, donc l'intériorité de la langue, donc la vie. Deuxièmement, d'avoir perturbé le secret de la vie, qui revient en même. Et troisièmement, d'avoir perturbé le désir de partager, c'est-à-dire de devenir un égoïste avec un désir de recevoir, ce qui revient, ça aussi, en même que le reste. Parce que les secrets de la Torah, c'est justement le savoir partagé. Alors que le sens premier de la Torah, c'est savoir recevoir seulement. Et donc tous ces degrés-là ont un point commun, le désir de recevoir, donc voir la vie avec un bas niveau, et ne pas voir la vie avec son niveau intérieur. Vous êtes avec moi ou je vous planais? Ça va? Ok. Kama detninan anavim hayu. Et le Zohar, lui, a choisi parmi les trois arbres possibles, les raisins. C'est-à-dire que pour le Zohar, ce n'était qu'un seul arbre. Pour lui, c'est sûr, c'était le raisin. C'est-à-dire qu'Adam Arishon a fauté dans la vigne. C'est-à-dire qu'il n'a pas étudié les profondeurs, le sens profond de la Torah. C'est pour ça que le Harizal a tiré cette conclusion, parce que l'étude du Harizal provient du Zohar. Et donc Moshe leur dit, faites attention, il faut vous renforcer pour faire cette correction. Pourquoi? Parce que cette correction revient chaque génération. À chaque fois elle revient, cette faute-là. Il faut se renforcer pour pénétrer l'intériorité de la Torah. Si tu te laisses aller au premier niveau de la Torah, on va te faire peur. Jamais tu accéderas au sens secret de la Torah, au sens profond de la Torah. Donc tu vas retomber dans la faute. Et pourquoi il faut rentrer dans le secret de la Torah? Tout simplement parce que quand tu rentres en Eretz Israël, la terre d'Israël, c'est la terre des secrets. Il n'y a pas ici Oroth? Ça veut dire, si tu ne comprends pas ce secret-là, tu n'as rien compris à la terre d'Israël. Le Rav Kook nous dit, Eretz Israël est nena davar chitzoni. Eretz Israël n'est pas une chose superficielle. Et donc, si tu dois comprendre la terre d'Israël, tu ne peux pas la comprendre avec une vision superficielle, une vision plate. Impossible. Chabuka bezgula pnimit. Bezgulot pnimiot, Eretz Israël est lié avec une donnée très 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 profonde, immetziuta, chez la Ouma. Elle est liée avec la neshama de l'existence de la nation d'Israël. C'est-à-dire, on ne peut même pas faire la différence entre la nation d'Israël et la terre d'Israël. Ou mitorkar, et dit le Rav, si c'est comme ça, yefchar la amod ala tochen chez Sgulat Kdushat Eretz Israël, personne ne peut comprendre la véritable sensibilité, le véritable secret de la terre d'Israël. Où là aussi la poêle est tombée sur la bechumaskala rationalit, avec aucun sens rationnel, enoshite, humain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour comprendre Eretz Israël? C'est-à-dire en étudiant le premier sens de la Torah, la Mishnah, la Gemara, tu ne comprendras jamais rien à Eretz Israël. Voilà ce que le Rav Kook dit. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Kim beruach Hashem asher ala uma bichlala. Il faut que tu aies l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, qui se trouve sur l'assemblée d'Israël tout entière. Autrement dit, tu dois devenir un kabbaliste pour comprendre quelque chose de cette terre d'Israël. Tant que tu n'es pas à ce niveau-là, tu ne comprendras rien. Et d'ailleurs, il le dit dans le deuxième chapitre. « Al-yedei itrachakut mehakarat harazim » Si tu t'éloignes de l'étude des secrets, dans notre texte, c'est si tu perturbes le raisin, si tu ne goûtes pas au jus intérieur de ce raisin, c'est-à-dire au vin qui représente le secret, eh bien, ba hakara shel kedushat eretz Israël betzura metushteshet. Tu auras une vision de la terre d'Israël toujours floue. Jamais tu comprendras rien à la terre d'Israël. Ça, c'est quand tu n'étudies pas. Mais quand tu fais exprès de ne pas étudier, c'est encore pire. Al-yedeitnakrut el sod Hashem, quand tu sors contre l'étude des secrets de la Torah, ça c'est une deuxième couche, le Rav est beaucoup plus dur là. Na'asot asgulot ha'elyonot shel omek ha'chaim, les dvarim tfelim. Tout te paraît fade, tout te paraît normal, bidon, il n'y a rien de spécial dans cette terre plus que quelque part ailleurs. Au contraire, il te dit... Au contraire, tu vas plus avoir le plaisir de vivre en dehors d'Israël qu'en Eretz Israël. C'est-à-dire, en dehors d'Eretz Israël, va trouver grâce à tes yeux et tu ne comprendras rien à la terre d'Israël. Conclusion, c'est une seule chose qui fait la différence. L'étude profonde ou l'étude superficielle, c'est tout. Donc comprenez bien que les gens qui n'ont pas de lien avec cette terre d'Israël, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas pénétrer l'étude de la Torah dans son sens le plus profond. C'est de là que ça provient. Donc ne vous posez pas de question, qu'est-ce que c'est que la Torah de Eretz Israël? Vous avez la réponse ici. La Torah d'Eretz Israël, c'est le Zohar. C'est-à-dire qu'il faut que chacun de nous aspire un jour à faire dans son étude, rentrer cette partie-là de l'étude, bien entendu, avec tout le reste. Mais Chas v'Shalom ne pas laisser cette étude en dehors, comme si c'était loin, donné à des gens, interdit à tout le monde. Chas v'Shalom. Faire très, très attention, c'est une partie de la Torah, et il faut l'étudier. Surtout lorsque le peuple d'Israël revient sur sa terre. Sinon, on ne comprendra rien à cette terre-là et à ce qu'on est venu faire ici. Ok.
Mais il y a des gens qui ne sont pas faits pour étudier le Zohar, alors qu'ils ne sont jamais de leur vie qui
se trouvent. Alors toi, tu es fait pour ça, il faut que tu fasses ton étude pour arriver à ce degré-là. Ne pense pas à ceux qui ne le sont pas, pense à la communauté d'Israël qui, elle, quand elle revient sur la terre d'Israël, c'est son travail. D'ailleurs, étudier le Zohar, ce n'est pas ouvrir un livre de Zohar, c'est étudier ça. Étudier Oroth, c'est, ça équivaut à étudier le Zohar. Donc vous étudiez ça, vous étudiez le Zohar, c'est la même chose. Habillé sous une autre forme. Quelle? Non. Non, impossible. Impossible. Quel? Tu ne sais pas. D'où tu sais? Tu les connais tous? Tu fais, c'est ton test. À chaque fois que tu serres la main à quelqu'un, tu lui dis tu étudies Zohar. Peu importe. Encore une fois, ils n'ont pas ouvert le livre, mais ils ont ouvert un livre qui, sous un autre vêtement, dit les données et les notions du Zohar. C'est pas le nom Zohar. Okay? Ce livre, il n'y a pas marqué Zohar dessus. Mais quand tu rentres à l'intérieur, ça ne parle que de ça. Okay? C'est tout. Tout ce que le Rav Kook a écrit, c'est du Zohar. Tout ce que le Baal HaTanya a écrit, c'est du Zohar. Tout ce que le Rav de Breslev a écrit, Rabbi Nachman, c'est du Zohar. Alors ils sont où? Bon, au contraire, à chaque fois que je serre la main à quelqu'un, il a étudié. Alors on ne fréquente pas les mêmes personnes. Tout le monde étudie ça aujourd'hui, sans le savoir. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que la nation d'Israël est en train de revenir sur sa terre, c'est pas un hasard. C'est parce que la Torah de l'intériorité, c'est elle qui est en train de monter à la surface. Aujourd'hui, la plupart de l'étude, c'est l'intériorité. Chassidut Breslev, Chabad et Rav Kook. Ça s'appelle Chabakouk. Ok? Ok?
Alors, c'est quoi le... Il y a Zohar, et Zohar, il y a deux Zohar.
Non, il n'y a pas deux Zohar. C'est un...
Nahon.
Quand tu ouvres le livre du Zohar en lui-même, tu ne comprendras rien. Alors, le Rav Kook et les autres rabbanim t'ont mâché le travail, et tu rentres et tu comprends les choses d'une manière beaucoup plus assimilée, beaucoup plus à ton niveau. Bien entendu, c'est encore élevé, mais tu as des rabbanim Baruch Hashem qui te le mettent à ta portée. Allez. Veitraskut anidreshet atahim ipnesha yamim yeme bikure anabim. Donc, le Zohar nous explique tout ce degré là. C'était ça la faute du premier homme. Trois lignes avant la fin du deuxième paragraphe. Moi, ce que je vous demande, dit Moshe Rabbeinu, si déjà vous rentrez sur la terre d'Israël, c'est de corriger la faute du premier homme. C'est ça mon but. Et d'ailleurs, c'est ça notre but à nous. Forcément, la terre se dévoilera dans sa pleine sainteté, ha'amitit, réel, véritable, asher bachra le'atzma bereshit hitcholleluta, comme elle l'avait choisi. On avait dit que la terre d'Israël n'avait pas perdu son choix, alors que toutes les autres terres l'avaient perdu. La terre d'Israël est restée intègre, intacte, comme au départ de la création, donc elle n'a pas perdu son libre choix, son libre arbitre, okay? Comme au début de sa création. Troisième paragraphe en haut. Oulam, Ameraglim la Krueta Zemura Imha Eshkol. Qu'ont-ils fait les explorateurs, alors que Moshe leur a dit de prendre les fruits de la terre? Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des raisins, mais est-ce qu'ils ont pris des raisins, seulement des raisins, ou est-ce qu'ils ont pris l'arbre avec? Ils ont pris la grappe entière, ça veut dire avec l'arbre. D'accord? Ils n'ont pas pris les raisins eux-mêmes. Chaque raisin était comme ça. Ils ont pris une grappe avec tout le bois, avec tout l'arbre. Ils ont porté l'arbre qui contenait encore les raisins. Donc, ce que dit ici le Rav, c'est quelque chose de très intéressant. Il rentre dans le détail maintenant. Vaikretu misham zmora. Donc, ils ont l'ichrot. Qu'est-ce que c'est l'ichrot? C'est couper un arbre dans son tronc. C'est-à-dire, ils ont coupé le tronc de l'arbre. Zmora ve'eshkol anavim echad, avec une grappe de raisin, le'arot ki kechol aratzot eretz Israël. Pourquoi? Ils voulaient montrer, les explorateurs, ils avaient un but en faisant ça, c'est de montrer au peuple d'Israël que la terre d'Israël n'avait rien de plus que les autres terres. C'était pareil. Okay. Ça, c'était, tu as raison, au contraire, ça peut, si les fruits étaient énormes, ça voulait encore plus peur aux gens. Ça veut dire qu'il faut, c'est pas à notre niveau. Des fruits sont trop forts pour nous, ils sont trop grands pour nous, ça veut dire que cette terre appartient à des géants. Donc c'est encore pire. Toi, tu le vois avec un bon œil, tu te dis avec des fruits comme ça, c'est magnifique. Eux, non. Dans leur idée, c'est de montrer combien cette terre est complètement disjonctée. Elle n'est pas normale, cette terre. Elle est faite pour un autre style de vie. C'est fait pour des géants, c'est pas fait pour des gens comme nous. Regardez un raisin, ce que c'est. Alors, je ne vous dis pas une pastèque. Bien, vous comprenez, si le raisin, il est déjà comme ça, qu'est-ce que c'est une pastèque? Alors, les gens, ils se sont dit, ce n'est pas une terre pour des humains. Donc, ils ont voulu faire peur aux gens. Et donc, comme le fruit n'a pas le même goût que le tronc, eh bien, c'était une preuve que la terre d'Israël était comme toutes les autres terres. Parce que les autres terres, on a dit que le fruit et l'arbre n'ont pas le même goût. Eh bien, même en Eretz Israël, ce n'est pas le même goût. Nahon ? Ça veut dire quoi ? Si je vous apporte un fruit avec la branche, mangez la branche, vous allez voir, vous allez vous étouffer. Il n'y a pas de goût du fruit. Dans la branche du raisin, tu ne manges pas un raisin. Eh bien, c'est ce qu'il voulait dire aux gens. Vous voyez ? On nous a envoyés, on nous a bernés, on nous a envoyés dans une terre qui n'est pas différente des autres. Donc, il vaut mieux ou rester dans le désert ou rentrer en Égypte. Veim omna mitzad ached aklali, nistater vene'elam kocha nisgav shel Eretz Yisrael. Parce que, si c'est comme ça, je fais une petite parenthèse, tant que tu ne vois pas l'intériorité de ce degré de la terre, eh bien, tu ne pourras pas comprendre de quoi elle est faite. Et donc, comme les explorateurs n'ont pas approfondi leurs recherches, ils ont donné des informations du premier degré. Donc, immédiatement, les gens ont eu peur, ont pris peur tout de suite. Et donc, ils n'ont pas cherché à comprendre. Quand tu es dans un état de panique, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus la capacité de penser. Il n'y a plus rien, c'est juste au niveau des ressentis maintenant, du regesh. Tu es complètement dans une panique et tu n'arrives plus à faire face à la situation. Donc tu perds complètement tes moyens. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. On a baissé le niveau à un niveau de regesh en leur faisant très peur. Et ce jour-là, tout le monde s'est mis à pleurer. Et Akadosh Baruch Hu nous a dit, dans la Gemara, vous allez pleurer pour de bon. Vous avez pleuré pour rien. Maintenant, vous allez pleurer pour de bon jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça que nous pleurons jusqu'à aujourd'hui, Tisha B'Av. Okay. C'est ça le pleur. C'est le premier pleur de l'histoire. Et on continue avec ce pleur-là. Destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, destruction de Gouch Katif, et toutes les destructions de notre histoire. La première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, tout ça c'est Tisha B'Av. Incroyable. Verak le'atid lavo, titgale haaretz betzivyona amiti. Donc jusqu'à la fin des temps maintenant, tout ce programme a été reporté en fait jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire, tant qu'on ne sera pas à la période de la fin des temps, nous, Baruch Hashem, on a la chance d'être déjà, nous sommes à la fin des temps, mais jusqu'à la fin des temps, on ne pourra pas comprendre le secret de cette terre d'Israël. Aujourd'hui, grâce à l'étude profonde, nous commençons à comprendre les secrets de la terre d'Israël. On commence à comprendre que ce n'est pas une terre comme les autres. Et si tu veux la comprendre, ce n'est pas avec ton niveau rationnel cohérent que tu peux comprendre cette terre. Ici, c'est de l'ordre du surnaturel, c'est quelque chose d'autre, qui n'est pas applicable ailleurs. Tout ce qui marche ailleurs ne marche pas ici. Ce sont d'autres données. Bechol zot, gam achshav bishat chorbana yesh la teva hazeh legadel et yevula al yedei ha'emuna bechaya olamim. Et malgré tout, dit le Rav, Charlap, si on avait la Emouna comme on devait la voir, comme on doit la voir, eh bien même avant la fin des temps, on devrait arriver à voir la qualité intérieure de cette terre. À tel point que si tu commences à faire des efforts et à planter sur cette terre, va te pousser ici des fruits et des légumes comme nulle part ailleurs dans le monde. Ça, c'est dit il y a 70 ans. Aujourd'hui, on voit qu'ils avaient raison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les fruits et les légumes d'Eretz Israël sont à un niveau extraordinaire. Il n'y a pas au monde une qualité comme la nôtre. Baruch Hashem. Avec un goût, pas seulement une beauté. Tu peux avoir de grosses poires qui font un mètre d'envergure, mais qui n'ont aucun goût. Ici, les raisins, les fruits, reviennent tout doucement. Plus le peuple va revenir sur sa terre, plus le goût des fruits va revenir. Ça va ensemble. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la terre d'Israël n'est pas loin de l'étude qu'on est en train d'étudier. Si ça ne montre pas une correspondance, ça veut dire que notre étude est fausse. C'est-à-dire, si maintenant je quitte cette étude et je vais au marché de Jérusalem et je goûte les fruits, et les fruits ne sont pas bons, ne sont pas beaux, ne sont pas en abondance, ça veut dire que tout ce que je vous ai dit dans ce cours est faux. Mais c'est le contraire. Baruch HaShem, on voit une abondance, il n'y a jamais eu une chose pareille, jamais. Et ça, c'est au fur et à mesure que le peuple est en train de revenir sur sa terre. Et donc, la Gemara nous dit, dans le Talmud de Jérusalem, Ken ma'amin vezorea. Il faut avoir la emuna et il faut planter, et tu verras que la terre te donnera multiplié par je ne sais pas combien, Ken, qui n'est pas en réalité par rapport à ce que toi tu as fait. Ben, tu plantes un petit arbre ici, il va te donner des tonnes de fruits, Ken, alors que tu te demandes même comment il y a autant de fruits dans un arbre aussi petit. Ken, c'est ça la bracha d'Eretz Israël. Demander à des cultivateurs en Eretz Israël, incroyable. Et pendant la Shemitah, c'est encore le double. L'ora kishar aratzot, chez Gidou la perot chez la emou, beschara emouna. C'est pas seulement que tu as une foi en Akadosh Baruch Hu et tu plantes et après tu retires, tu recueilles. Ela chez emouna, yachat me avodot haaretz. Regardez comme c'est beau ce qu'il est en train de dire ici. L'un des travaux de la terre, c'est la emouna. C'est pas que tu as la emouna et tu plantes. Non! Tu travailles ta emouna. C'est comme si la emouna faisait partie du travail de la semence. Alors quand tu sèmes en réalité une emouna. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas que tu as foi en quelque chose d'extérieur que tu fais. Ton travail, il est rempli de emouna. Tu as investi dans la emouna en Eretz Israël. Ça fait partie du travail. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je fais de la emouna. Ah bon? Je cultive de la emouna. Ah bon, comment tu fais ça? C'est ça, Eretz Israël. Je suis en train de semer de la emouna. Vous comprenez? Je ne sème pas une terre en ayant la emouna. Je sème de la emouna. Tout entier, je suis emouna avec ma terre. Donc, achati, mais avodot haaretz. Kecharisha vezria. C'est-à-dire, c'est comme planter et comme labourer la terre. La même chose, tu es ma'amin. Donc imaginez-vous qu'il y a un travail qui s'appelle Ma'amin, il y a un autre travail qui s'appelle Zorea, il y a un autre travail qui s'appelle Choresh. Donc il y a labourer, il y a semer, il y a arroser et il y a Ma'amin. Comment je traduis ça, Ma'amin? Certifié. Je certifie. Donc je laboure, je sème, j'arrose. Je plante ce que vous voulez et je certifie. Qu'est-ce que ça veut dire je certifie? Comment je peux certifier quelque chose? Comment tu certifies ta vie? En vivant. Ça veut dire en étant sur cette terre, tu certifies la parole divine. Et tu certifies tout ce que cette terre est. Parce que quand tu es sur elle, elle donne ses fruits. Donc c'est toi le certificat d'authenticité de cette terre. La preuve, c'est que tant que le peuple d'Israël n'était pas sur cette terre ne donnait pas ses fruits. Dès que le peuple d'Israël revient sur sa terre, la terre donne ses fruits. Ça veut dire que c'est le peuple qui certifie sa terre. Et c'est énorme ce que je suis en train de vous dire là. Nous sommes le certificat d'authenticité de la terre d'Israël. C'est énorme. Keshem shebelo harisha vezria en gidulim. Et le Rav remet une couche. De la même manière qu'on ne peut pas recevoir des fruits de la terre sans semer la terre, sans planter des graines dans la terre, kach i efshar shiyu gidulim belo emuna. De la même manière, on ne peut pas avoir de fruits ou d'abondance de la terre sans avoir certifié cette terre. Sans avoir œuvré dans le sens de la Emouna dans cette terre. Est-ce que quelqu'un d'entre vous n'a pas compris ce que je suis en train de dire? C'est clair? Baruch HaShem. Ve'ashre, et heureux celui, les mishiyodea ou baki betiv eyuta. Alors le Rav nous dit maintenant, heureux celui qui a compris. Donc vous êtes heureux. Et vous êtes devenu spécialiste, baki betiv eyuta shela aretz. Vous avez compris le sens naturel même de cette terre. La nature profonde de cette terre vous est donnée maintenant. Vous avez compris son sens profond. Et je vais vous dire quelque chose. Vous êtes rare. Vous savez pourquoi vous êtes rare? Parce que nulle part ailleurs on étudie ce genre de Torah. Jamais tu étudieras une Torah comme ça. On va t'enseigner que tu dois avoir la foi en Dieu. Tu dois croire en Dieu. Vous avez compris quel est le sens de la Torah d'Eretz Israël? On a changé complètement les données. C'est pas que ta foi en Dieu, c'est que tu certifies le divin en étant sur ta terre. Ça, j'ai jamais vu. Ça, c'est Machon Meir. Ça, c'est Merkaz Arav. Ça, c'est le Rav Kook. Ça, c'est le Zohar. Le Rav Kook, le fils Rav Tzvi Yehuda, nous disait quelle est la différence entre l'étude de la Torah en dehors d'Eretz Israël et l'étude de la Torah en Eretz Israël. Il disait, c'est très simple. En dehors d'Eretz Israël, tu étudies des feuilles de Gemara. Sur la terre d'Israël, les lettres ont quitté les feuilles et sont rentrées dans les fruits et dans les légumes de la terre. Dans les arbres de la terre d'Israël. Vous avez compris la différence? Voilà ce que le Zohar enseigne. C'est que ce n'est plus une Torah de l'étude cérébrale, c'est une Torah de vie. Tu vis ta Torah, tu la manges, tu la consommes, tu la digères, ça fait partie de toi. Elle est dans les fruits, dans les légumes que tu manges. Elle est ta terre. C'est la Torah qui est terre, terre Torah. Pas la Torah de la terre, Torah Eretz. Vous avez compris? La Torah de la terre, comme si la terre elle-même avait une Torah. Un jour, on a reçu la Torah du ciel? Oui ou non? Il y a fait. La nouveauté en Eretz Israël, c'est qu'on reçoit la Torah de la terre. Vous avez compris? Et c'est ça le grand degré. Quand on reçoit la Torah du ciel, ça ressemble à quelle forme géométrique? Un triangle. Une pyramide. Moshe se trouve en haut. Akadosh Baruch Hu lui donne. Et il donne, il propage vers le bas. Ça s'élargit en descendant. Quand tu reçois la Torah de la terre, c'est exactement l'inverse. Ça veut dire qu'elle vient d'en bas et elle se propage vers le haut. Et les deux ensemble forment le Magen David. Vous avez compris? C'est ça le secret de la Torah de la terre. C'est que la terre a donné. Comment on dit Moshe Kibel Torah Misinai? On peut dire Rabbi Shimon Kibel Torah Mi'adama, Mi'eretz Israël. Voilà le secret de la terre. Okay? Maintenant vous commencez à comprendre que ce n'est pas une étude de Torah dans un lieu qui s'appelle Paris et après j'ai juste changé de lieu, j'étudie à Jérusalem. C'est pas ça. Je suis pas à Jéru. Ça n'existe pas, ça. C'est la Torah qui est donnée d'un autre degré. Elle ne vient plus du ciel. La preuve, c'est qu'il n'y a plus de manne qui descend du ciel. Il n'y a plus le puits de Myriam qui descend du ciel miraculeusement. Tout vient de la terre. Quelle était la bénédiction qu'on faisait avant de manger la manne? Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Hamotzi Lechem Min Hashamayim. Vous avez compris? Et qu'est-ce que vous faites vous comme racha? Hamotzi Lechem Min Haaretz. Vous avez compris la différence? Voilà la Torah d'Eretz Israël. C'est pas une Torah qu'on étudie ailleurs. C'est une autre Torah, un autre degré de Torah. Une Torah qui vient des entrailles de la terre, que la terre elle-même nous offre. Qui s'habille comment? Dans ses fruits et dans ses légumes. Ça veut dire manger de la fabrication de Eretz Israël, c'est grandir en Torah. Vous pouvez devenir des Talmidei Chachamim en mangeant des fruits de Eretz Israël. Okay.
Est-ce qu'il y a un but à retourner à l'Inachimaïm
ou... Non. Le but, c'est on a déjà reçu ce degré, il faut juste la coupler avec Amotzi Lechemina Aretz. C'est tout. Ça veut dire qu'on est arrivé à la fin. On n'a plus besoin de... On a déjà. La Torah qui est descendue du ciel, on l'a déjà. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? La recevoir de la terre. C'est-à-dire, accepter les premières tables. Non, vous comprenez ce que c'était les premières tables. C'était la parole divine gravée où? Dans la terre. Est-ce que vous avez compris ce secret? Alors ça, on avait du mal au début. Mais Baruch HaShem, Léat, Léat, on commence à comprendre qu'est-ce que je suis en train de vous dire maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle la Torah des secrets. Donc un kabbaliste moralité, pourquoi on l'appelle kabbaliste? Parce qu'il sait recevoir de la terre. Mekabel, Mekoubal. Moshe Kibel. Moshe, c'est un kabbaliste parce qu'il sait recevoir les choses. Et ceux qui vivent en Eretz Israël, comme dit le Rav, et qui savent recevoir la Torah de la terre, c'est-à-dire de l'énergie que la terre procure à l'homme, alors là, c'est une autre Torah. Un autre degré de Torah. Un jour, j'ai vu sur le petit hebdo un Rav qui n'habite pas ici, qui disait « Je ne comprends pas de quoi ces gens-là parlent en parlant de la Torah d'Eretz Israël. » C'est la même Torah. Un coup, je l'étudie à Paris, un coup, je l'étudie ici. Non, monsieur le rabbin. C'est pas ça. Tu n'as pas compris, c'est pas un déplacement territorial. Je ne suis pas en train de te parler de ça. Bien sûr que si c'est ça, c'est ridicule. Je suis en train de te donner une autre notion. Il faut que tu l'intègres, cette notion, parce qu'elle ne passe plus par la logique, par l'étude cérébrale. Elle passe par la vie, tout simplement. De la même manière que tu respires et que tu vis, mais quand tu nais sur cette terre, quand tu marches sur cette terre, tu reçois sa neshama. Noten le neshama la'am aleha, dit le prophète. Il donne à Kadosh Baruch Hu la neshama à ceux qui marchent sur cette terre. Au fur et à mesure que tu marches, la neshama rentre en toi. D'où elle rentre? De la terre. Okay. Alors si vous voyez okay, toutes les religions, d'où est-ce que les choses viennent chez les religieux? Du ciel. Regardez les tableaux du Moyen-Âge, okay, l'étoile de maître du Moyen-Âge, qui a toujours la béatitude, ils ont la bouche ouverte, et ils regardent vers le ciel comme ça. Tu les vois comme ça. Dans toutes les positions, il y a des... Hein? Ça veut dire que tout doit descendre du ciel. Si aujourd'hui on doit faire une toile correspondant à Eretz Israël, c'est une vision qui fait comme ça. C'est-à-dire, je suis ébloui de ce que la terre me donne. Toda Rabba.